journal Mireille Boukassa.
Au Kivu, la 10e région militaire annonce avoir mis en déroute le groupe d'insurgés cantonnés depuis plus d'une année dans les hauts plateaux de Minembwe. Le commandant de cette région militaire appelle les autres insurgés à rejoindre le centre de brassage. Deuxième jour du séjour du chef de l'État en Angola, Joseph Kabila a consacré sa journée à la visite des wagons de la GKMIN abandonnés depuis plusieurs années à Benguela, au sud de Luanda. Inauguration ce matin à Kinshasa du bureau régional de la Banque africaine pour le développement. Le président de la BAD pense que cela devrait permettre de renforcer la coopération avec les acteurs du développement des deux Congos. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Commençons par le Sud Kivu où un groupe d'insurgés cantonné depuis plus d'une année dans les hauts plateaux de Minembwe a été mis en déroute par la 10e région militaire. Ce groupe commandé par des officiers réfractaires au brassage avait toujours posé des conditions pour rejoindre les rangs des FRDC, notamment l'érection des Minembwe en territoire. Pour rappel, le 16 juillet dernier, ces insurgés auxquels avaient lancé une offensive sur les éléments des FRDC dans les hauts plateaux de Minembwe, depuis les FRDC ont à leur tour commencer une chasse à l'homme contre ces insurgés. Ces opérations se poursuivent encore, mais la 10e région militaire se déclare disposée à recevoir tout insurgé qui voudrait rejoindre le centre de brassage sans condition. Le général Sylvain Chikwej au micro de Astrid Mujinga.
Nous avons récupéré toutes les positions jadis occupées par les insurgés. Ils sont en débandade par groupe de 10, de 8 dans des brousses là de Minembwe. La poursuite continue. Il y a deux d'abord capturés à Minembwe, 4 capturés à 35 km au Vira, 9 capturés sur la plaine de la Ruzizi qui voulaient traverser pour le Rwanda. Leur leader donne des conditions. Je dis non, pas des conditions. S'ils veulent se rendre, qu'ils se rendent, mais sans aucune condition. Ils sont en train de négocier avec la MONUC par l'intermédiaire du chef de bureau politique auprès de son Excellence Monsieur Swing. C'est lui qui m'informe de leurs contacts qu'ils ont pris.
Nous apprenons que ce mardi même, un groupe d'insurgés commandé par le colonel Mukalai est arrivé à Uvira en provenance des hauts plateaux de Minembwe. Aussitôt arrivé, le colonel Mukalai a été reçu par le commandant par intérim de la 109e brigade en présence de la MONUC Uvira. La situation de dernières attaques des insurgés dans les hauts plateaux a fait l'objet de leur entretien. Et puis cette nouvelle qui vient de nous arriver du Sud Kivu, 3 personnes d'une même famille tuées par balle samedi dernier à leur domicile dans le village Buhoho 2 à Idju Sud. Information confirmée par le chef de collectivité d'Idju Sud, l'honorable Mwami Tambuka indique que les résultats d'une première enquête font état d'un règlement de compte. Il a également précisé que les agresseurs armés sont venus de la collectivité voisine d'Idju Nord. En parlant de l'insécurité dans le Sud Kivu, cela fait exactement 2 ans, ce 31 juillet, que Pascal Kabungulu, défenseur des droits humains à Bukavu, a été tué. Les ONG des droits de l'homme de Kinshasa demandent la réouverture du procès Pascal Kabungulu. Ils ont organisé un sit-in cet avant-midi devant le palais de la Nation à Gombe. Mimi Ngumba revient sur les revendications que les ONG de droits de l'homme devraient remettre au bureau du président de la République. Reportage.
Avec des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Pas des 5 chances » dans l'impunité et muni des photos de feu Pascal Kabungulu, plusieurs dizaines de manifestants représentant plus de 50 ONG de droits de l'homme sont allés remettre un mémorandum au bureau du président de la République. Dans ces documents, ils exigent la réouverture du procès sur l'assassinat de Pascal Kabungulu ainsi que la délocalisation de ce procès de Bukavu à Kinshasa pour des raisons sécuritaires. Les manifestants recommandent également la mise en place d'une loi portant promotion et protection des droits de l'homme en RDC. Selon Floribert Chebe de la Voix des Sans-Voix, la manifestation de ce jour est leur dernier rempart pour faire justice, les précédents ayant échoué. Malgré l'absence du chef de l'État au pays, les manifestants espèrent trouver gain de cause car, déclare-t-il, l'institution présidence n'a pas changé depuis que ces faits avaient eu lieu. Pour rappel, le procès assassinat Pascal Kabungulu, défenseur de droits de l'homme de Bukavu, avait été suspendu en décembre 2006. Pour cause, le tribunal s'était déclaré incompétent.
Notons que depuis 10h du matin, les manifestants ne savaient à qui remettre leur mémo. Du côté de la présidence, tous hésitaient. Finalement, c'est vers 15h que ce document a été réceptionné par le secrétariat du directeur du cabinet du chef de l'État. à Bukavu où fut assassiné Pascal Kabungulu, toutes les associations des droits de l'homme se sont donné rendez-vous sur sa tombe. Recueillement et dépôt de fleurs étaient au rendez-vous. Ces associations réclament qu'un monument en mémoire de cet homme soit érigé au centre-ville. Elles s'engagent aussi à continuer à exercer la pression sur les autorités pour la reprise du procès débuté et renvoyé à une date ultérieure. Insécurité toujours, cette fois-ci en Ituri, 4 hommes armés ont investi dimanche soir la résidence du chef d'antenne de Radio Kapi aux environs de 18h, heure locale. Les assaillants ont réussi à le ligoter avec son gardien sous la menace de leurs armes. Après plus d'une heure et demie de séquestration et de menaces, ils ont emporté de l'argent et d'autres matériels. Signalons cependant que la résidence visitée se situe dans un secteur sécurisé de la ville de Bounia, c'est-à-dire à côté du camp du contingent marocain de la MONUC. À la suite de cette agression, la MONUC Bounia a renforcé ses mesures de sécurité. À Lubumbashi, c'est le chef du quartier Mounoua 2 de la commune annexe de Lubumbashi qui se plaint du nombre croissant des cas d'insécurité enregistrés dans son entité. Le dernier cas en date s'est produit le vendredi dernier. Des bandits munis d'armes blanches ont attaqué un cambiste. Celui-ci a réussi à tuer l'un des bandits. Jean-Marie Kabongo demande aux autorités de renforcer la sécurité dans ce quartier résidentiel. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Madeleine Waïla.
Il y a beaucoup d'insécurité dans ce quartier. Beaucoup de vols s'opèrent à des heures tardives. On attend toujours des crépitements des balles. Les inciviques ravissent des appareils, ils ravissent aussi de l'argent. Ils peuvent tuer une personne dans un autre quartier, mais ils viennent avec des voitures les jeter dans notre quartier. On n'a pas vraiment beaucoup d'éléments de la police pour faire le patrouille dans ce quartier. L'effectif du commissariat de la police de Kaboula Meshi est très réduit. Ils n'ont que deux policiers pour monter la garde.
Contacté à ce sujet, le commandant ville de la police nationale indique qu'il n'est pas informé de ces différents cas d'insécurité enregistrés dans le quartier Mounoua 2. Joseph Kabila en Angola, le chef de l'État congolais et son homologue angolais se sont envolés depuis hier après-midi pour Benguela au sud de Luanda. En compagnie de 5 ministres, le numéro 1 de la RDC a visité les wagons de la Gécamines abandonnés il y a plusieurs années. C'est une des conséquences des accords signés hier entre la RDC et l'Angola, notamment celui des transports et communications. Notre envoyé spécial à Luanda, Emmanuel Imbanda.
La délégation gouvernementale congolaise doit procéder à une évaluation de l'état des wagons de la SNCC, Société nationale de chemin de fer à Benguela, et de l'immeuble de cette entreprise à Lobito. Une visite du tronçon réhabilité de chemin de fer de Benguela est aussi prévue. Cette ligne de chemin de fer est d'une grande importance économique pour le Katanga et le Congo. Elle servait à l'exportation du cuivre et autres produits de la Gécamines et aussi à l'importation des produits pour la Gécamines et la province du Katanga. Ce trafic est interrompu depuis une trentaine d'années à cause de la guerre en Angola. Lors des travaux de la dernière commission mixte à Luanda, la partie congolaise a rappelé à la partie angolaise les 49 wagons de la SNCC, l'immeuble de la SNCC à Lobito et la créance de près de 4 500 000 dollars américains. La partie angolaise a donné des assurances à la partie congolaise. Une réunion d'experts angolais sur ces questions se tiendra prochainement. Les experts congolais, eux, doivent visiter le port de Lobito fin août prochain. Luanda, Emmanuel Imbanda Lokenga Lokitimbi, Radio Okapi.
Et aux dernières nouvelles, nous apprenons que le président Joseph Kabila a quitté l'Angola cet après-midi pour regagner la RDC. C'est aujourd'hui 31 juillet qu'expire le délai du séjour de Jean-Pierre Bemba au Portugal. Selon le rapporteur adjoint du Sénat, Lola Kisanga, même si Bemba ne rentre pas aujourd'hui, cela n'affecte en rien sa qualité de sénateur. S'il estime que les questions liées à sa sécurité ne sont pas encore résolues, Jean-Pierre Bemba peut autant des fois qu'il le souhaite solliciter une prorogation de son séjour. Lola Kisanga le dit au téléphone de José Moussa Opone.
J'estime qu'au nom du bureau du Sénat que l'expiration de ce délai librement demandé par l'intéressé ne peut aucunement affecter ni son mandat ni sa qualité. Le sénateur Jean-Pierre Bemba peut rentrer quand il veut et s'il souhaite que le Sénat lui accorde une autre autorisation au terme d'attestation pouvant couvrir son séjour, si son séjour l'exige, rassurez-vous que le bureau du Sénat ne peut pas le refuser parce que, au terme de l'article 109 de la Constitution de la République, République, les sénateurs comme les députés nationaux ont le droit de circuler sans entrave ni restriction sur l'ensemble du territoire national et d'en sortir. De ce point de vue, au niveau du Sénat, nous avons juste à exhorter le sénateur Jean-Pierre Bemba ainsi que tous les autres sénateurs qui sont à déplacement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, d'observer les dispositions réglementaires à ce qui concerne leur travail de sénateur.
Toujours selon Lola Kisanga, le retour de Jean-Pierre Bemba ne dépend pas du Sénat, mais plutôt du sénateur Jean-Pierre Bemba lui-même et du gouvernement. À une question politique, il faut une réponse politique, ajoute-t-il. Le bureau régional de la Banque africaine pour le développement inauguré ce matin à Kinshasa. L'installation de ce bureau devrait permettre de renforcer la coopération avec les acteurs du développement des deux Congos et se rapprocher de ses clients. Le président du groupe de la BAD l'a déclaré à la cérémonie d'inauguration de ce bureau. D'autres raisons de l'installation de ce bureau régional avec Donald Kaberuka, président du groupe de la Banque africaine de développement. Il est au micro de René Capita.
La banque a fait ce choix stratégique en vue d'accroître l'efficacité et l'impact de ces interventions dans les différents domaines. La nouvelle représentation régionale devrait permettre une gestion et un suivi régulier du portefeuille des projets et programmes dans les deux pays d'un montant consolidé d'environ 500 millions de dollars américains, qui fait le deuxième en importance du guichet FAD après celui de l'Éthiopie. Ce portefeuille comprend au total 16 projets dans les secteurs de l'agriculture et des infrastructures telles que l'eau et l'assainissement. C'est un portefeuille qui se caractérise par sa jeunesse et un niveau de performance exigeant, un suivi de proximité, particulièrement nécessaire dans le cas des pays dits fragiles comme les deux Congo.
Donald Kaberuka, président du groupe de la Banque africaine de développement, était au micro de René Capita. À l'issue de la cérémonie de l'inauguration du bureau de la BAD à Kinshasa, un accord de don au projet eau et assainissement a été signé entre la BAD et le gouvernement congolais. En province orientale, la situation sanitaire est inquiétante dans la carrière d'or dénommée Kamabele. C'est à 40 km au sud de Ouattara, territoire à plus de 800 km dans l'est de Kisangani. Selon le médecin chef de zone de santé, les victimes ont souffert de la méningite suite aux mauvaises conditions hygiéniques. Il parle d'au moins 5 personnes sur 20 malades qui sont décédées de cette maladie. Dr Jeff Itama propose la fermeture du camp et l'amélioration des conditions sanitaires. Il est au téléphone de Dorcas Kankou.
Il présentait des symptômes de céphalée, fièvre, raideur de nez qui puis subitement 2-3 jours après il mourait. Sur les 18 cas, il y a eu 5 morts qui sont tous morts de mêmes symptômes. Et nous avons trouvé que c'est une méningite à pneumocoque qui a surgi là-bas. Ça a pris un caractère un peu épidémique parce que tout simplement les camps est mal entretenu. Nous avons trouvé dans un camp où habitent 400 personnes, il n'y a qu'une seule source d'eau. Et cette source d'eau n'est même pas une source d'eau parce que c'est l'eau coule, l'eau courante. Les ruisseaux sur lesquels les orpailles sont en train de travailler, que les gens sont en train de boire. Pour 400 personnes, on devait avoir 20 latrines parce qu'il faut une latrine pour 20 personnes. Au lieu de 20 latrines, on a trouvé 4 latrines seulement. Et en plus, ils habitent 6 à 10 personnes dans une île. Promiscuité, c'est justement le facteur qui favorise la propagation de cette maladie. Nous avons proposé à l'administrateur qu'on puisse fermer ce camp, qu'on puisse aménager des sources d'eau et creuser d'autres latrines.
Et pour sa part, l'administrateur du territoire de Ouattara, Dieudonné Moukeni, appuie la proposition du médecin de fermer ce camp pour, dit-il, des raisons de santé publique. Les médias du Kasaï occidental appelaient à plus de responsabilité dans le traitement des informations en rapport avec le dossier qui oppose l'Assemblée provinciale au gouverneur Trésor Kapoukou. C'est l'essentiel de la rencontre d'hier entre le chef de bureau de la MONUC, le bureau de l'information publique et les responsables des médias locaux. Les participants ont fustigé les propos des acteurs politiques diffusés ces derniers temps et se sont engagés à faire le travail dans la neutralité. Pierrot et Laminji pour le reportage.
C'est dans un climat incertain que certains propos sont entendus ces 10 derniers jours dans les médias locaux. Les derniers propos sont ceux exprimés le dimanche dernier par le gouverneur ad intérim, qui a déclaré à la RTNC dès son retour de Kinshasa que la Cour suprême a trouvé beaucoup d'irrégularités dans la motion de défiance de l'Assemblée provinciale, alors que le verdict n'est pas encore rendu public. Juste après le gouverneur intérimaire, c'était la diffusion du point de presse d'un député de l'UN qui fustigeait l'attitude triomphaliste de l'entourage de l'exécutif. La MONUC, qui a noté le danger d'une telle escalade de propos, a convoqué cette rencontre pour amener tout le monde à la raison. L'action de la MONUC est saluée par l'Union nationale de la presse du Congo, Congo qui exige la neutralité aux médias. Innocent Bumba.
Et les responsables des médias aussi devraient veiller au travail que les journalistes font et voir également si les papiers tiennent compte des principes de l'opportunité avant de pouvoir les publier.
Message bien reçu par la presse locale. Celle-ci s'est engagée à respecter les principes du métier, à analyser au préalable le contenu de l'information avant sa diffusion. La section de l'information publique de la MONUC s'engage à les assister à cette tâche. Le chef des bureaux de la MONUC, de son côté, a rappelé à la presse locale que la Cour suprême de justice était le seul organe habilité à rendre publiques les décisions. C'est pourquoi Mahand Ladouzi a appelé les uns et les autres au calme.
Nous souhaitons vivement que la Cour suprême puisse se prononcer le plus tôt possible et que la population ne doit écouter que ce que la Cour suprême aura à dire.
La population, quant à elle, attend toujours les verdicts de la Cour suprême de justice. De Kananga, Piero Elameji, Radio Okapi.